Alors, bonjour à tous, je suis content d'être parmi vous ce matin. Alors, vous avez peut-être remarqué déjà pendant le culte que je suis un peu malade, donc j'espère qu'on m'entendra bien jusqu'à la fin. J'ai d'ailleurs constaté que je n'étais pas le seul, donc j'espère que tout le monde se remettra bien. Voilà. Donc cet automne, les cultes à l'arc-en-ciel ont pour une bonne partie été orientés par le thème de la fête, puisqu'il y avait la fête des 25 ans de l'Église. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sortes de fêtes, et je pense que beaucoup de ces fêtes sont justes et bonnes devant Dieu. On peut fêter pour rappeler ce que Dieu a fait, on peut fêter un mariage, un couple qui décide de s'unir et de former une nouvelle famille. J'ai vécu un très beau mariage hier après-midi, pas le mien. Et puis, il y a d'autres fêtes qui servent à montrer notre reconnaissance pour les bienfaits que Dieu nous donne, pour une naissance, pour un anniversaire. Bref, il y a beaucoup de bonnes manières de fêter Dieu. Mais il y a aussi des fêtes qui déplaisent à Dieu. Et c'est de celles-là qu'on va parler ce matin. Parce que quand même, tout n'est pas rose dans notre monde. Alors bon, ça serait assez facile de tout simplement prendre des fêtes bien païennes, dédiées à des faux dieux, et de taper dessus. Ou bien je pourrais vous expliquer que, à mon avis, vous ne devriez pas aller au Macumba ou dans des endroits comme ça. Mais ce n'est pas ça qu'on va faire. On va plutôt parler des fêtes qui ont l'apparence d'être religieuses, qui ont l'apparence d'honorer Dieu, mais que Dieu accueille mal. Et pour aborder ce thème-là, nous allons lire des textes du prophète Amos et du prophète Ésaïe. Donc les prophètes, ce sont des hommes qui parlent de la part de Dieu, et en l'occurrence, ils parlaient dans l'Ancien Testament, donc dans l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple juif avant la venue de Jésus-Christ. Donc, je vais commencer par un premier texte qui vient du prophète Amos, et après on parlera un peu plus du contexte où il dit tout cela. « Je déteste vos pèlerinages. Je ne veux plus les voir, dit le Seigneur. Je ne peux plus sentir vos cérémonies religieuses, ni les sacrifices complets que vous venez me présenter. Je n'éprouve aucun plaisir à vos offrandes de grains. Je ne regarde même pas les veaux gras que vous m'offrez en sacrifice de communion. Cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles. Je ne veux plus entendre le son de vos harpes. Laissez plutôt libre cours au droit. » Que la justice puisse couler comme un torrent intarissable. Alors, le texte d'Amos est assez violent et il s'attaque à la plupart des aspects du culte que le peuple d'Israël rendait à Dieu. Maintenant, on va essayer de situer un petit peu le contexte. Donc, ça se passe au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël vit en Palestine, en Canaan, en Israël, depuis plusieurs siècles. Et à cette époque, il est divisé en deux royaumes. Il y a le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et donc Dieu avait fait une alliance avec Israël. Il leur avait promis une terre qu'ils habitent maintenant. Il leur avait promis la bénédiction. Il leur avait aussi promis qu'Israël serait une bénédiction pour tous les autres peuples. Et Dieu avait donné une loi à Israël. Une loi qu'Israël devait suivre et une loi qui elle-même était une bénédiction parce qu'elle montrer à Israël comment vivre. Alors, au 8e siècle, on pourrait avoir l'impression que les choses vont plutôt bien. Les deux royaumes sont d'une période d'expansion économique. Ils sont plutôt prospères. Du point de vue religieux, il y avait eu une très grave crise au siècle précédent où une reine, la tristement célèbre reine Jézabel, avait voulu introduire le culte du dieu Baal, un culte à la manière des Phéniciens, un culte avec son cortège de sacrifices humains et ses rites liés à la sexualité extrêmement malsains. Donc, il y avait eu des gros problèmes. Mais un certain Jéhu, qui est l'arrière-grand-père du roi qui règne à l'époque d'Amos, s'était indigné contre cela, avait renversé le roi, fils de Jézabel, il avait éradiqué le culte de Baal et remis le culte du dieu d'Israël à l'honneur dans les sanctuaires à Bethel et à Dan. Il y avait donc, à l'époque d'Amos, un culte très bien réglé sous l'autorité du roi. Et donc, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'Amos trouve à redire à tout cela? Et le dernier verset du passage qu'on vient de lire nous met déjà un peu la puce à l'oreille, quand il dit « Laissez plutôt libre cours au droit, que la justice puisse couler comme un torrent intarissable. » Il y a donc quelque chose à voir avec la justice dans ces reproches qu'Amos fait. Mais Avant d'aller plus loin, on va lire un autre passage, cette fois du prophète Ésaïe, qui réagit à peu près à la même situation, au même moment ou bien un peu plus tard, mais cette fois c'est dans le royaume de Juda, au sud. Écoutons ce qu'il leur dit. « Dirigeants corrompus, dignes de Sodome, écoutez bien ce que dit le Seigneur. Et vous, peuple perverti, digne de Gomorre, soyez attentifs aux instructions de notre Dieu. Je n'ai rien à faire de vos nombreux sacrifices, déclare le Seigneur. J'en ai assez des béliers consumés par le feu et de la graisse des veaux. Je n'éprouve aucun plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Vous venez vous présenter devant moi, mais vous ai-je demandé de piétiner les cours de mon temple ? Cessez de m'apporter des offrandes, c'est inutile. Cessez de m'offrir la fumée des sacrifices, j'en ai horreur. Cessez vos célébrations de nouvelle lune, de sabbat ou de fêtes solennelles. Je n'admets pas un culte mêlé au crime. Je déteste vos fêtes de nouvelle lune. Vos cérémonies sont un fardeau pour moi. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous étendez les mains pour prier, je me bouche les yeux pour ne pas voir. Vous avez beau faire prière sur prière, je refuse d'écouter, car vos mains sont couvertes de sang. Nettoyez-vous, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions, cessez de mal faire. Apprenez à bien faire, préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Là encore, c'est tout le culte d'Israël qui en prend pour son grade. Et pourtant, les sacrifices, les prières, les fêtes chaque mois, tout cela fait partie de ce que Dieu a commandé à son peuple. Et on l'a encore lu ce matin dans les psaumes. Dieu demandait toutes ces choses. Par contre, ce qui ne va pas, c'est qu'une injustice règne. Et que la prospérité des deux royaumes s'est basée sur l'exploitation économique des plus faibles. Les richesses se concentrent dans les mains d'une classe privilégiée. Les pauvres sont vendus comme esclaves pour payer leurs dettes. Et on ne respecte pas le droit des veuves et des orphelins, de tous ceux qui n'ont pas la protection d'un chef de famille, de tous ceux qui n'arrivent pas à subvenir à leurs propres besoins. Et la loi que Dieu avait donnée à Israël contenait des prescriptions sur la manière de rendre un culte, mais aussi des lois qui protégeaient les plus faibles, qui assuraient à chaque famille de posséder assez de terres pour vivre, qui appelaient à nourrir les pauvres, et à aider les faibles. Mais Israël a oublié tout cela. Et prétendre rendre un culte à Dieu en méprisant les plus faibles parmi son peuple est simplement inadmissible. Le peuple d'Israël devait montrer à toutes les nations qui est Dieu. Mais si le peuple se réclame du nom de Dieu sans montrer dans son comportement que Dieu est un Dieu de justice et d'amour, alors cela n'a plus de sens et cela ne vaut plus la peine. Amos, le premier prophète que nous avons lu, poursuit immédiatement avec une menace assez terrible. C'est pourquoi je vous déporterai au-delà de Damas, déclare le Seigneur, son nom, Dieu de l'univers. Donc le peuple d'Israël est menacé d'être emmené loin de la terre promise. Et c'est une sanction qui est immense pour eux, parce que la terre, c'était un élément essentiel de l'alliance avec Dieu. Alors la menace de la déportation faisait déjà partie de l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël. Ça faisait partie des menaces si Israël ne respectait pas l'alliance. On voit ça dans le livre du Deutéronome. Mais Amos est le premier prophète qui mentionne cette idée de déportation comme quelque chose qui va vraiment être mis en application, comme quelque chose qui va entrer en vigueur. Donc, il y a de quoi faire peur au peuple. Et Ésaïe, de son côté, lui, il va continuer en posant une alternative. Le Seigneur dit, venez, nous allons discuter. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. Si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez, si vous continuez à vous révolter contre moi, l'épée vous dévorera. Voilà ce que le Seigneur affirme. Il y a donc un espoir. Si le peuple se tourne vers Dieu, un pardon est possible et leurs péchés peuvent être effacés. Et puis, voudrais aussi ajouter que si les prophètes reprochent au peuple son comportement en matière sociale, ils vont aussi dire que la manière dont le peuple honore Dieu n'est plus qu'un commandement de tradition humaine, que le cœur n'y est pas. Donc il y a aussi cette notion d'authenticité qui entre en jeu. Mais en fait, ces deux reproches sont liés. Jésus dira plus tard, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Donc, si notre foi et notre amour pour Dieu sont réels, ça doit changer notre comportement concret de la manière dont Dieu nous le demande. Et une foi authentique produit des fruits. Une foi qui ne produit aucun changement, en forçant un peu le trait, c'est du vent. Maintenant, j'aimerais progresser encore un petit peu dans l'histoire d'Israël avec un autre passage d'Ésaïe. Et là, nous allons voir une autre manière encore de faire la fête qui ne trouve pas grâce aux yeux de Dieu. Donc, cette fois, il y a déjà eu la sanction pour le peuple d'Israël au nord. Le roi d'Assyrie, donc, qui était roi d'un des plus puissants empires de l'époque, est venu et a déporté tout le peuple d'Israël loin de sa terre. Et le même roi d'Assyrie est en train d'envahir le royaume de Juda. Il a pris le contrôle de toutes les villes. Il n'y a plus que Jérusalem, la capitale, qui résiste encore, mais qui craint la faim. Et voyons ce que Ésaïe a à leur dire dans ce moment. Vous avez vu toutes les brèches dans la muraille qui entoure la cité de David. Vous avez fait des provisions d'eau au réservoir inférieur. Vous avez dénombré les maisons de Jérusalem. Vous en avez démoli certaines pour faciliter la défense des remparts. Vous avez aménagé un bassin entre les deux murailles pour les eaux du vieux réservoir. Mais vous n'avez pas tourné vos regards vers l'auteur de ces événements. Il les préparait depuis longtemps, mais vous ne l'avez pas vu. En ce jour-là, le Seigneur, le Dieu de l'univers, vous appelait à pleurer et à vous lamenter, à vous raser la tête et à porter l'habit de deuil. Or, c'est la joie débordante. On abat des bœufs, on égorge des moutons. On mange de la viande, on boit du vin. Mangeons, buvons, dites-vous, car demain nous mourrons. Mais le Seigneur de l'univers m'a fait entendre ce message. J'en fais le serment, cette faute ne peut être effacée avant que vous ne soyez morts. Voilà ce qu'a déclaré le Seigneur, le Dieu de l'univers. Donc cette fois, ce qu'on voit, c'est que la fête n'a même plus l'apparence de chercher à honorer Dieu. Au contraire, c'est une fête désabusée, une fête de désespoir. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. On voit que dans la situation assez désespérée où le peuple est, ils font tous les préparatifs que peut faire une ville en état de siège ou qui s'y prépare. Mais ce que Dieu attendait vraiment, c'est que les hommes prennent conscience de leurs fautes et qu'ils changent de comportement, qu'ils se rendent compte que leur situation désespérée n'est pas arrivée sans cause, mais qu'il y a un secours possible auprès de Dieu. Mais au lieu de cela, la population fête comme pour oublier qu'il n'y a absolument rien à fêter, fête pour oublier que tout va mal. Et je me demande si des fois on ne voit pas autour de nous certaines fêtes qui ont à peu près ce caractère-là. Rien n'a de sens, tout va mal, alors autant faire la fête pour ne pas voir que ça ne va pas. Et moi-même, ça m'est déjà arrivé dans certaines fêtes d'étudiants d'avoir exactement cette impression, l'impression de fêtes sans joie, qui ne sont qu'une fuite, où on essaye de faire semblant d'être heureux, mais où on n'a aucune raison de se réjouir, à part le fait d'avoir rassemblé de la nourriture et des boissons en quantité un peu trop importante. Et donc, si l'une ou l'autre de nos fêtes ressemble à ça, eh bien, c'est le moment de prendre conscience que c'est le temps de se tourner vers Dieu plutôt que de fuir dans ce genre de fête. Donc, regardons encore un peu la suite de l'histoire. Donc, finalement, la sanction vient pour Israël et pour Juda aussi. Juda a eu un sursis de 150 ans. Ils seront Dieu va libérer Jérusalem des Assyriens et Juda aura encore 150 ans de répit avant d'être déporté cette fois par les Babyloniens. Mais finalement, Juda aussi subit la déportation. Donc, dans la suite, Dieu a montré sa fidélité envers le peuple de Juda en le ramenant sur sa terre. Puis, il a montré de manière encore plus éclatante sa grâce en venant lui-même porter la faute de son peuple. En Jésus-Christ, Dieu a pris sur lui la faute du peuple d'Israël et aussi de toutes les nations. Et la promesse que nous avons lue en Ésaïe de rendre blanc comme neige la faute qui avait la couleur du sang, elle a été accomplie en Jésus-Christ. Et Dieu a fait ce qu'Israël n'avait pas réussi à faire en ouvrant l'accès à Dieu à toutes les nations, en permettant à toutes les nations de connaître le Dieu qui s'est révélé à Israël, ce dont nous bénéficions aujourd'hui. Et je crois qu'il ne faut pas négliger cette suite en pensant à ces textes des prophètes. Israël a fait échec, ça c'est un fait. Et nous, si nous avions été à leur place, si nous y sommes, nous ferions échec de la même manière. Mais au final, ce n'est pas sur nous que repose notre justice, mais c'est sur Dieu même et sur ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Maintenant, je vous propose de regarder encore un autre passage, cette fois dans le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui écrit à une communauté de chrétiens, à l'église de Corinthe, donc qui sont d'une situation un peu plus proche de la nôtre que le peuple d'Israël. Donc, 1 Corinthiens 11, versets 17 à 22. « En passant aux remarques qui suivent, je ne peux pas vous féliciter, car vos réunions vous font plus de mal que de bien. Tout d'abord, on m'a dit que lorsque vous tenez des assemblées, il y a parmi vous des groupes rivaux, et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait des divisions parmi vous, pour qu'on puisse reconnaître ceux d'entre vous qui sont vraiment fidèles. Quand vous vous réunissez, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. En effet, dès que vous êtes à table, chacun se hâte de prendre son propre repas. De sorte que certains ont faim, tandis que d'autres s'enivrent. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et y boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous humilier ceux qui n'ont rien? Qu'attendez-vous que je vous dise? Faut-il que je vous félicite? Non, je ne peux vraiment pas vous féliciter. » Donc, dans cette église de Corinthe, ce que nous avons vécu sous la forme de la Sainte Cène, c'était vécu sous la forme d'un repas, où chacun venait avec sa propre nourriture. Et les riches mangeaient en grande abondance et laissaient les pauvres avoir faim. Et là, Paul s'insurge. Dans l'église chrétienne, il n'est pas question qu'un tel manque de solidarité se manifeste. Et si en plus il y a une arrogance envers les plus faibles, envers les plus pauvres, ça n'est vraiment pas admissible. Humilier ceux qui n'ont rien, c'est mépriser l'Église de Dieu. Et je crois que cela s'applique à nous aussi. Si nous pouvons venir au culte, être dans l'abondance, et voir un de nos frères qui est dans le besoin, et ne pas nous sentir concernés, alors c'est même pas la peine de tenir un culte. Si nous ne sommes pas prêts à obéir à Dieu en tout, y compris ce qui concerne la solidarité avec les plus pauvres et les plus faibles, alors je crois que nous pouvons cesser de brailler nos chants à ses oreilles. Et si nous sommes dans la division en s'opposant les uns aux autres dans l'Église, alors nos réunions nous font plus de mal que de bien. Paul reconnaît qu'il y a certaines divisions qui doivent arriver en ceux qui sont réellement fidèles à Jésus-Christ et ceux qui s'en écartent. Mais c'est une concession qu'il fait comme à contre-cœur. Ce n'est pas la situation normale entre des chrétiens qui sont fidèles au Christ. Et donc là aussi, si nos fêtes en l'honneur de Dieu sont marquées par des divisions et des rivalités, eh bien, il y a quelque chose à changer avant que nos fêtes puissent être agréables à Dieu. Et nous ne devons donc pas croire que Dieu ne s'intéresse qu'à notre vie religieuse, à nos chants, à nos prières, à notre louange, à notre adoration ou à notre lecture de la Bible. Nous sommes aussi appelés à avoir soin les uns des autres et de ceux qui ont besoin de nous. Et si notre piété est destinée à cacher notre injustice ou nos mauvais comportements, alors nous avons une piété qui est pire que tout. On peut encore réfléchir un peu à tout cela dans notre situation. Nous vivons dans une société qui est injuste. Elle est peut-être plus ou peut-être moins qu'à d'autres époques, cela importe peu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'Occidentaux, nous profitons des déséquilibres à l'échelle mondiale. Et en tant que Suisses, nous profitons d'une prospérité qui vient aussi des capitaux soustraits aux pays pauvres et cachés chez nous. Après, est-ce qu'on peut changer le système économique mondial? A priori, non. Ça, je crois qu'il faut être réaliste. Mais je crois que déjà, on peut vivre au sein de l'Église une vraie solidarité, comme Paul nous y invite, comme Jacques le fait aussi, et Jésus aussi, et une bonne partie du Nouveau Testament, si on regarde bien. Et puis je crois que, plus fondamentalement, l'appel des prophètes, ça consiste aussi à ne pas seulement avoir des chants et des cérémonies en l'honneur de Dieu, mais aussi avoir une foi suffisamment profonde et authentique pour transformer nos comportements concrets. Je crois que l'Église peut avoir une influence sur la société en général, mais je crois surtout que si nous ne pouvons pas vivre la solidarité à l'intérieur, entre nous, alors on ne peut rien espérer apporter au dehors. Et je crois que, quand je dis cela, nous sommes tous dans la même situation. Nous savons, nous sentons qu'il y aurait quelque chose de plus à faire, nous ne voyons pas toujours comment. Mais je crois que si nous nous laissons interpeller, la question de vivre cette solidarité dans l'Église, c'est une question qui vaut la peine d'être réfléchie. Comme individu, à commencer par moi-même, à commencer par chacun de nous, et aussi comme communauté. On peut se demander comment faire pour, en tant qu'Église, en tant que groupe de chrétiens, vivre une solidarité les uns avec les autres, et pas juste des vies chrétiennes parallèles qui se croisent le dimanche matin, sans tellement se préoccuper de ce que les autres vivent et de ce dont ils ont besoin. Et si les temps se font dire, ou si possible même avant cela, il nous faut toujours être prêts à revenir à Dieu, au lieu de fuir dans des fêtes ou des loisirs qui nous feraient oublier les vrais problèmes. Notre Dieu est un Dieu de grâce, qui accueille ceux qui se tournent vers lui avec le désir de changer, et qui sait mieux que nous ce qui nous manque. Alors, si nous sommes interpellés par ces textes de ce matin, c'est toujours auprès de Dieu qu'est la solution.